Radio Libertaire 89,4, la voix sans maître ni dieu de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, on va lire des extraits de deux livres. 1312 raisons d'abolir la police, qui a un rapport avec la psychiatrie. Eh bien, là, il y en a un, puisqu'il y a un chapitre intitulé Folie, handicap et abolition. Et donc, un livre qui parle des mouvements abolitionnistes aux États-Unis. Et un autre livre, un extrait, en tout cas, c'est celui de Ronald Lang, Sagesse des raisons et folie, la fabrication d'un psychiatre aux éditions Seuil. Ça date de 86 ou 85. Voilà donc des extraits, simplement, de ces livres. Et puis, mais auparavant, un dossier apparu dans Le Monde. Grand-mère n'était pas folle. La quête de vérité sur les aïeuls, au féminin, internés de force en psychiatrie. plus dérangeante que dérangée, souvent polytraumatisée, des milliers de femmes ont été internées au sein des, entre guillemets, asiles d'aliénés dans les années 1940, 1950 et 1960. Aujourd'hui, certains de leurs descendants entament un travail de réhabilitation de leur mémoire et mettent au jour le caractère abusif et misogyne de l'enfermement. Donc c'était ça a été publié courant juillet 2025. Et il y a par exemple l'exemple de Ilse Kratsch. Donc, ça commence par une citation. À l'adolescence, quand je me suis senti fragile mentalement, j'ai refusé d'avoir affaire à un psychologue par peur que la folie familiale se transmette, confie Géraldine Tripitelli, 54 ans, responsable marketing à l'École nationale des ponts et chaussées. Cette crainte de la folie ne lui vient pas de nulle part. Elle est la petite fille d'Ilse Kratsch, internée à l'asile d'aliénés Saint-Pierre, aujourd'hui devenue la Timone, à Marseille, de 1952 jusqu'à sa mort en 1983. De sa grand-mère, elle ne sait qu'une chose, tout le reste étant entouré d'un lourd silence. Elle est allemande. Enfant, elle lui rend visite deux fois à l'hôpital psychiatrique, mais Ilse Kratsch reste une figure fantomatique. Une histoire triste que ma mère veut enterrer. Une omerta brisée par sa cousine. Marie-Ilse Bourlange, artiste multidisciplinaire de 42 ans qui porte le prénom de son aïeul. Lorsqu'elle devient mère, le besoin d'éclaircir ce trou noir familial se fait insistant. On nous a dit qu'elle était schizophrène, puis on nous a parlé d'état maniaque et de psychose. Jamais rien de précis pour un internement qui a duré près de 30 ans, déplore l'artiste. Elle plonge alors dans les méandres des archives départementales des Bouches-du-Rhône et interroge les membres de sa famille, à commencer par ses tantes, soulagée d'avoir enfin une occasion d'en parler. Les contours de l'histoire apparaissent. En 1952, à la sortie de l'école, alors qu'elle vient y chercher ses enfants, Ilse Kratsch est arrêtée par la police après une vive altercation avec une mère d'élèves. Sur le livre de la loi destiné à l'enregistrement des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, seul document administratif intact qu'elle a pu récupérer, Marie-Ilse lit « Détention d'urgence sur requête du comité de police sans certificat médical. Présente un état maniaque, symptomatique d'une psychose intermittente. Loquacité, euphorie, divagation délirante, turbulence et insomnie. À maintenir. » À cette époque, Ilse Kratsch n'était pas mariée et élève seule ses trois enfants en bas âge. Elle garde en elle les séquelles de la guerre, en particulier celles de ses années passées au camp de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, où ont été enfermées des milliers de citoyennes allemandes, pour la plupart de confession juive, bravant le froid, le manque d'hygiène et la sous-alimentation. En creusant, on découvre surtout que c'était une femme polytraumatisée qui cultivait un esprit libre et n'entrait pas dans la case de l'épouse parfaite, explique Marie-Ilse Bourlange. Dans Mother's Milk, Japsam Books, 2023, un ouvrage oscillant entre investigation familiale et création artistique, elle retrace ce qu'elle appelle sa mission, réhabiliter l'histoire de sa grand-mère paternelle enfouie sous le tabou. L'ombre d'une figure féminine internée en psychiatrie plane sur de nombreuses familles. Dans le livre « Mon vrai nom est Elisabeth », édition du Sous-sol, 400 pages, 22 euros, qui vient d'obtenir le prix Régine Desforges du premier roman, la normalienne et chercheuse en études cinématographiques Adèle Yon mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la vie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dit Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. Lobotomisée, à la demande de son mari, internée de force durant 17 ans, elle a accouché de 6 enfants en 7 ans, subissant la plupart de ses grossesses entre les quatre murs de l'hôpital psychiatrique. En cherchant ce que cachait la maladie mentale de son aïeul, l'autrice retrace la manière dont la société de l'époque, de l'institution familiale aux autorités médicales, a psychiatrisé les femmes qui n'épousaient pas la figure de la mère de famille idéale. Adèle Yon découvre que les longs séjours à l'asile de son aïeul ne sont pas considérés sous l'angle de la cure, mais sont le signe d'un renoncement des médecins et d'un abandon de la famille. À travers l'histoire individuelle de Betsy, elle fait émerger le sort collectif de milliers de femmes. Toutes celles placées sous contrainte, sur décision d'un tiers ou d'un tribunal, leurs entrées sont consignées dans les livres de la loi. 10 ans de date, 10 ans de matricule. Germaine, Madeleine, Odette, Adèle, des femmes violées, des femmes adultères, des femmes battues, des miséreuses, des avortées, écrit-elle. Publié en février, le livre a ouvert une brèche intime inattendue, poussant certains de ses lecteurs à lever la chape de plomb. Le livre d'Adèle Yon m'a remué. Ma grand-mère a été diagnostiquée bipolaire, anciennement appelée psychose maniaco-dépressive. Et elle a fait des allers-retours en hôpital psychiatrique toute sa vie, témoigne Charlotte. Les personnes citées par un prénom ont requis l'anonymat. Fin de parenthèse. Donc Charlotte, responsable de communication âgée de 36 ans. Dans sa famille, le sujet n'est abordé que par bribes de conversation ou par anecdote. Elle ne peut s'empêcher de se demander quelle femme elle était avant la déclaration de ce trouble. Elle a offert l'ouvrage à sa mère en espérant l'embarquer dans sa recherche. Nicolas Guégan, journaliste de 34 ans, enquête, lui, sur l'histoire d'Antoinette, sa grand-tante d'origine arménienne, placée d'office à l'asile d'Aliénés Saint-Pierre le 13 mai 1939 à l'âge de 25 ans. Elle y avait été enfermée à la demande d'un tiers car, selon la légende familiale, elle aimait trop les hommes. Sur le certificat des premières 24 heures, le psychiatre justifie ainsi son internement. Présente un état confusionnel avec mutisme, agitation motrice, désordre des actes, impulsivité et violence, gâtisme, anémie, inappétence, placement nécessaire à maintenir. Il n'y aura pas de diagnostic plus précis jusqu'à sa sortie le 13 août 1942 avec le motif « in extremis » signifiant à l'article de la mort. Elle meurt 2 jours plus tard au domicile de sa mère, un décès qui demeure inexpliqué. Ce qui n'est jamais mentionné, c'est qu'Antoinette a survécu au génocide arménien, notamment à l'incendie de Smyrne, et a passé, en 1922, 4 ans de sa vie dans le camp de réfugiés Oddo à Marseille, déplore Nicolas Guégan. Dans quelle mesure les normes et injonctions de genre pesaient-elles sur ces femmes internées, voire suscitaient des troubles psychiques ? La famille et les psychiatres actant l'internement prenaient-ils en compte leur passé traumatique ? Ces questions habitent également Laura, trentenaire en reconversion dans le milieu de l'édition, qui a dû attendre d'avoir 32 ans pour apprendre que sa grand-mère paternelle avait été embarquée devant ses enfants sur la place principale de son village et internée de force en 1960. À cette époque, sa grand-mère est institutrice, dessine beaucoup, est veuve depuis 7 ans et élève seule ses 3 enfants. Encore aujourd'hui, aucun membre de sa famille ne connaît les raisons invoquées pour la faire interner, ni le lieu précis d'hospitalisation. Ce qui s'est transmis dans nos récits familiaux, c'est son gros caractère et son désir d'indépendance qui déplaisait fortement à sa belle famille qui l'a placée sous tutelle et la méprisait. Se lancer dans ce type de recherche, c'est parfois ouvrir bien plus que des archives. Une quête identitaire s'enclenche, accompagnée d'un détour inévitable vers ses propres parents. On parlait très peu de l'Arménie à la maison. En explorant la vie d'Antoinette, j'ai découvert mes racines, mais aussi mieux compris mon père, raconte Nicolas Guégan. De son côté, Sophie, 33 ans, chargée de mission dans l'associatif, a refermé le livre d'Adèle Yon avec la ferme intention d'explorer le passé de sa grand-mère maternelle, internée pour schizophrénie à l'asile de la Madeleine à Bourg-en-Bresse, un établissement réservé aux femmes jusqu'en 1937. Si elle cherche avant tout à réhabiliter la mémoire de cet aïeul, sa démarche vise aussi à comprendre la souffrance séculaire des femmes, à commencer par celle de sa propre mère, privée très tôt d'une figure maternelle. La dizaine de témoins interrogés dans le cadre de cet article décrivent un contexte similaire, des circonstances d'internement méconnues, un diagnostic imprécis, des traumatismes d'enfance qui surgissent au fil des histoires, des dates d'hospitalisation changeantes. Parfois, le seul moyen d'obtenir des informations est de s'intéresser à la grande histoire de la psychiatrie. Citation. Dans la première moitié du XXe siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on compte qu'une grande majorité de femmes dans ce que l'on appelle alors les asiles d'aliénés. Cette majorité s'explique non pas par le nombre, mais par la durée d'internement. Quand les femmes entrent à l'hôpital psychiatrique, elles en sortent peu. Fin de citation. C'est les paroles de Marie Derrien, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lille, qui a consacré une thèse à la psychiatrie entre 1914 et 1980. Marie Derrien. Sa propre grand-mère, atteinte d'un trouble bipolaire, a été hospitalisée de nombreuses fois sur de courtes périodes de sa vie. Si elle avait très probablement des troubles psychiques, on peut questionner l'unique prise en charge de l'époque, l'internement. Aujourd'hui, je pense qu'elle a été mise sous cloche par son entourage, en partie parce que mon grand-père avait peur de ses attitudes et du qu'en dira-t-on, ajoute Marie Derrien. Dans son laboratoire situé au Mans, l'historien spécialiste de la psychiatrie Hervé Guillemin s'adonne à une activité nouvelle depuis 5 ans, ouvrir des consultations aux descendants de personnes internées, à 80% des femmes, souhaitant faire la lumière sur les raisons et les conditions de placement. Plus encore, depuis la publication du livre d'Adèle Yon, quelque chose se passe. Il y a une dimension presque citoyenne dans le désir de rouvrir les secrets de ces femmes. Fin de citation. Aux yeux de l'historien, deux effets conjoncturels expliquent cet élan. D'une part, la libération de la parole des personnes atteintes de troubles psychiques dans l'espace médiatique, et d'autre part, la volonté de percer les secrets des dossiers médicaux, archives les plus protégées de France après les archives nucléaires, car communicables seulement après un long délai, 25 ans à compter du décès pour les descendants et 120 ans à compter de la naissance pour les historiens professionnels. Désormais, on sait davantage que les descendants et les historiens ont un droit d'accès aux archives, souligne Hervé Guillemin. Ces archives renferment l'histoire de la psychiatrisation des femmes en France. Au XVIIIe siècle, à l'époque du grand renfermement décrit par Michel Foucault, des femmes considérées comme déviantes, prostituées, voleuses, blasphématrices ou simplement jugées folles sont enfermées contre leur gré. Les motifs d'internement relèvent parfois de l'arbitraire le plus total. Mauvaise fréquentation, agitation politique, au refus du devoir conjugal, lecture excessive de romans ou négligence ménagère. À partir du printemps 1885, la Salpêtrière, vaste complexe hospitalier de 33 hectares au cœur de Paris, devient le théâtre d'un pouvoir médical exercé par le docteur Jean-Martin Charcot, 1825-1893. On y enferme quelques 100 000 femmes accusées de débauche, d'hystérie ou d'avoir pratiqué ou subi un avortement. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la sociologie des femmes diagnostiquées schizophrènes est la suivante. Des jeunes femmes brillantes qui sont dans une dynamique d'émancipation individuelle, mais se heurtent à un contexte social et familial enfermant, explique Hervé Guillemin. À cette époque, les psychiatres alertent l'opinion sur ces jeunes femmes qui provoquent une épidémie de démence précoce. La lobotomie, massivement pratiquée par le médecin Walter Freeman, 1895-1972, et le neurochirurgien James Watts, 1904-1994, dans la période de l'après-guerre, donc la lobotomie est une opération chirurgicale du cerveau constituant à sectionner ou à altérer la substance blanche d'un lobe cérébral. Elle était pratiquée à 84% sur des femmes. Si elle n'a jamais été officiellement interdite par une loi spécifique en France, cette pratique a progressivement disparu à partir des années 1970-1980. Notamment avec l'arrivée des neuroleptiques en 1952. Rosemary Kennedy, 1918-2005, la sœur de l'ancien président des États-Unis, a 23 ans lorsqu'elle est lobotomisée à la demande de son père, Joe, en 1941. Après l'opération, elle disparaît des photos de famille et de la vie publique. Elle est handicapée et placée en institution. Dans un documentaire diffusé sur France Télévisions, on apprend qu'elle adorait le sport, la fête et les garçons. Une femme solaire et rebelle, qui représente alors un danger pour la carrière politique de ses frères, Robert Francis et John Fitzgerald Kennedy. L'ouverture par les descendants de cette boîte de Pandore peut créer des cataclysmes dans les familles. Tout le monde n'est pas prêt à entendre l'histoire réécrite. Les archives ont le pouvoir de révéler le visage de personnes qu'on pensait connaître par cœur. Ça peut être très violent, prévient l'historienne Véronique Blanchard, coordinatrice de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière, édition Anna Mossa, dont le prochain numéro apparaît en juillet, consacré à la quête des descendants sur leurs histoires familiales. Qu'elles soient provoquées par l'apparition de troubles psychiques, par la venue d'un enfant ou par la mort d'un membre de la famille, cette quête de vérité est souvent une nécessité pour avancer. Il y a un moment où le secret est tellement lourd que ça peut empêcher de vivre. La quête s'impose à eux, c'est presque de l'ordre du vital, confirme Véronique Blanchard. Récemment, des réformes ont permis d'encadrer davantage les hospitalisations sans consentement, notamment avec l'introduction d'un contrôle judiciaire depuis la loi du 5 juillet 2011. Si nous sommes très loin de la psychiatrie des 19e et 20e siècles, 63% des personnes traitées en 2010 avec l'électroconvulsivothérapie, ECT, ce que nous appelons aussi les électrochocs, je ferme la parenthèse, consistant à délivrer un stimulus électrique à travers le cerveau afin de provoquer une brève crise convulsive. Donc 63% des personnes traitées en 2010 sont des femmes. Une pratique restant marginale, le taux moyen de recours à cette ECT s'élevant à 0,6 individus concernés pour 100 000 habitants année en 2019, selon un rapport de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Ce taux place la France en position intermédiaire dans la liste des pays où l'ECT est pratiqué, les chiffres allant de 0,04 en Lettonie à 5,1 aux États-Unis. Par ailleurs, une information et un consentement éclairé du patient ou de la personne de confiance sont un préalable nécessaire à la pratique de l'ECT. Oui, mais dans quel état d'esprit est la personne lorsqu'on lui demande si elle est d'accord pour un consentement pour une séance d'électrochoc. Je poursuis. Des psychiatres féministes tels que Muriel Salmona déplorent toutefois que des femmes victimes de violences sexuelles et conjugales, souffrant de troubles psycho-traumatiques importants, soient encore internées pour des motifs aléatoires tels que des bouffées délirantes ou des troubles de l'humeur. Si ces internements ne se font plus sous la contrainte et n'ont plus le même visage qu'au XXe siècle, des avocats spécialisés regrettent l'existence d'exceptions archaïques. C'est le cas de l'avocate Pauline Pietroy-Chabassier qui, en décembre 2023, a assisté une femme sexagénaire internée à Sainte-Anne, GHU Paris, à la demande de son mari au motif qu'elle voulait le quitter. Aucun médecin n'a constaté de trouble. C'est hallucinant que ça puisse encore avoir lieu aujourd'hui. La justice a levé l'hospitalisation sous contrainte. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce long article où l'on ressort les archives à l'initiative des descendants de ces personnes concernées qui étaient donc bien souvent leurs aïeuls au féminin. C'était donc le titre l'article Non grand-mère n'était pas folle, la quête de vérité sur les aïeuls internés de force en psychiatrie. Et donc c'est publié au courant du mois de juillet de cette année dans Le Monde, le journal Le Monde. Ce qui révèle en fait un peu finalement la parole s'ouvre aussi sur les internements psychiatriques, les témoignages apparaissent et effectivement l'accès aux archives est une condition de cette libération de du souvenir de la parole et de la connaissance de ces faits. Eh bien, nous allons écouter une chanson de Thomas Pithiot et nous nous retrouvons après avec Ronald Lingue. C'est toujours l'Entonnoir sur Radio Libertaire, l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Ça y est, j'ai reçu ta lettre. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'as enfin pris ta plume pour écrire à Toto, ton ancien pote d'avant, ton compagnon de 4 heures. Quand nous répondions tous aux lois de la pesanteur, aux lois de la pesanteur. J'aime assez tous ces mots bizarres et ces couleurs nouvelles. Des choses tu dois en voir, des jolies et des belles. Je lui dirais à cette vieille qui t'envoyait au coin que t'écris bien mieux qu'elle, sans virgule et sans point. sans bidule ni machin. Sur la lune et que t'as la tête dans notre terre, avec ton bonnet d'âme et tes étoiles de mer, tu te fous bien des drapeaux, mais celui que t'as trouvé, c'est de loin le moins beau qu'on ait jamais porté, qu'on ait jamais planté. Ceux qui promettaient la lune, qui étaient cons comme la terre, qui voulaient décrocher la thune, une résidence secondaire. Tu dis qu'ils ont rien vu à part quelques cratères, qu'au royaume de l'œil nu, seul le voyant se perd. C'est pour mon dernier, dernier quartier, dernier quartier. Présente-moi donc ta rousse, je l'ai toujours trouvée belle. Je vous promets devant tous, la plus belle terre de miel, 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 la plus belle terre de miel.
Radio Libertaire 89.4, la voix sanctuée sans maître et sans publicité, la Fédération anarchiste. C'est toujours l'entonnoir, et là on vient d'écouter donc Thomas Pithiot, la terre à Toto. Et c'est toujours l'entonnoir, donc émission critique de la psychiatrie. Et nous allons. Je vais vous proposer de lire. De vous lire un extrait de la vie. De la vie de Ronald Lang, raconté par lui-même dans Sagesse des raisons et folies, où il raconte comment il est devenu psychiatre. Et donc, on se projette dans les années 1950-51, donc où il doit partir à l'armée, mais en tant que psychiatre. Alors, je commence à la page 119, voilà. Le service psychiatrique central de l'armée britannique à Netley comprenait une unité de 20 lits pour les traitements d'insuline et des sections réservées aux névrosés et aux psychotiques. Donc, pour un psychiatre, ces mots n'étaient pas du tout entre guillemets, hein, à cette époque. C'était vraiment des névrosés et des psychotiques. L'insuline était administrée à 6h du matin et les patients entraient dans le coma au bout de 4h. Le traitement d'insuline commençait à 10 unités et augmentait quotidiennement de 10 unités jusqu'à ce que les patients soient dans un profond coma, accompagné parfois de crises d'épilepsie. La tactique était d'injecter une dose d'insuline susceptible d'entraîner ces crises, mais de les éviter autant que possible, car le dos pouvait se briser. Une grande quantité d'insuline rend la lumière extrêmement épileptogène. La salle était donc plongée dans l'obscurité totale. Quand les patients entraient peu à peu dans le coma, nous, le personnel, nous déplacions dans les ténèbres qui guidaient seulement par les rayons des lampes fixées sur des sangles attachées à nos fronts. Nous ne devions pas les laisser trop longtemps dans le coma, sinon ils devenaient irréversibles. Vers 10 heures, nous leur injections des doses de 50% de glucose par des sondes gastriques, avec l'espoir d'avoir atteint l'estomac plutôt que les poumons. Difficile à savoir quand la personne est dans le coma. Pour les patients déjà évanouis, dont les veines avaient disparu, nous utilisions de préférence un goutte-à-goutte de glucose pressurisé, toujours dans l'obscurité. Certains n'avaient plus de veines. Entre guillemets, leur éclatement sous la pression provoquait une thrombose. Les aiguilles manquaient la veine et la solution de glucose se répandait dans les tissus. Il fallait parfois prendre un scalpel pour réduire, entre guillemets, et enfoncer une aiguille dans ce qu'on espérait n'être pas une artère ou un nerf. Nous n'avions que nos lampes frontales. Comme les sondes, veines, goutte à goutte et lampes frontales étaient à l'ordre du jour, je reçus une formation idéale rien qu'en 6 mois de travail neurochirurgical intensif. Au bout de quelques semaines, on me fit rencontrer le docteur Meyer Gross, l'une des autorités mondiales dans les thérapies de coma à l'insuline, dont le service de Dumfries en Écosse avait une renommée universelle. Joe Shortstein avait été son patient. L'armée voulait qu'il m'examinât pour juger de mon aptitude à travailler dans ce secteur et qu'il nous fît toutes les suggestions possibles lors d'une brève visite. Meyer Gross préconisait les rideaux tirés et une faible lumière dans la salle au lieu de l'obscurité totale. L'atmosphère qu'il répandait était chaleureuse et accueillante, mais les patients de l'armée britannique étaient abreuvés d'insuline et plongés dans le coma plus rapidement que les siens, donc davantage sujets à des crises d'épilepsie qui, une fois déclenchées, devenaient très difficiles à contrôler. J'avais vu plus de crises d'épilepsie que la plupart des cliniciens de mon âge, tant dans le service des parkinsoniens post-encéphalitiques de Stob Hill que dans celui de neurochirurgie de Killearn. L'aura, le cri, la chute et la crise. Les phases toniques, cloniques, la pisse et la merde. Il n'y avait jamais de quoi rire. Je vis un garçon de 10 ans mourir d'une série d'attaques épileptiques. Une décharge dans le pouce se répand et traverse, entre guillemets, rapidement et inexorablement tous les muscles du corps. Je détestais les crises d'épilepsie, mais on pensait vaguement, notamment Urgo Cialetti, professeur de psychiatrie à l'Université de Rome, que les crises d'épilepsie pouvaient être bénéfiques dans les cas de schizophrénie. Cialetti s'était fait remarquer pendant la Première Guerre mondiale en inventant un équipement de camouflage par temps de neige pour l'armée italienne. Il s'intéressait tout spécialement à l'électricité et au cerveau. Après une visite dans un abattoir, il avait décrit comment on abattait les porcs en leur tranchant la gorge après les avoir assommés par une décharge électrique. Cialetti trouva que si une telle décharge ne suffisait pas pour tuer un cochon, on pouvait bien essayer l'électricité sur des cerveaux humains, à commencer, pour ouvrir un nouveau chapitre de la science, sur ceux des schizophrènes. Pour Cialetti, la schizophrénie et l'épilepsie étaient, pour ainsi dire, inversement proportionnel. Les épileptiques schizophrènes semblaient moins schizophrènes après une crise d'épilepsie. Par conséquent, pourquoi ne pas provoquer l'épilepsie chez les schizophrènes ou moins grossièrement un lavage de cerveau pour nettoyer leur sale cerveau encrassé. Des électrochocs induiraient l'épilepsie et des relaxants musculaires préviendraient une résurgence de la crise. C'est un compte-rendu fondé sur plusieurs articles de Cerletti. L'essentiel se trouvant dans un article reproduit en totalité dans « L'effet de la vie ». Les interprétations qui ne s'y trouvent pas sont, je l'espère, écrit l'auteur, un résumé correct de la production psychiatrique de cette époque. On pensait aussi vaguement qu'il existait des comas dépassés, selon l'archétype de la mort et de la renaissance dans son acception littérale. Dans le coma dépassé, le patient approche de très très près une mort physique réelle et peut effectivement mourir. Certains ont l'impression de mourir, et ce n'est pas un leurre. Ils semblent morts, en tout cas. Leur respiration, leur pouls, leur battement de cœur sont parfois imperceptibles pendant des secondes, voire des minutes. Cette descente dans la mort n'est-elle pas thérapeutique ? On empoisonne chimiquement le cerveau et l'esprit se remplit de charabias inintelligibles, un lavage en profondeur, un bon nettoyage, et l'esprit est remis à neuf, prêt pour un nouveau départ, une renaissance, une résurrection. Meyer Gross préférait limiter les doses d'insuline et induire l'épilepsie de façon plus contrôlée par des électrochocs administrés en plein coma. Et voilà, c'était donc un extrait de ce qu'a écrit Ronald Lang quand il raconte donc sa jeunesse de psychiatre au Royaume-Uni. Alors, je vais maintenant, on va écouter encore autre chose. On va écouter Bourrasque, Les Solitaires.
Elles sont légères, le sac au dos et le zéphyr pour manteau, un bout de bâche pour château, le vaste cœur de l'univers. Dans la lumière des blancs matins, les solitaires se moquent bien de celles qui sur leur beau chemin ont semé des éclats de verre. Avec la peur du lendemain, avec la peur. Mais les soucieuses mégères d'une voix si rupeuse et fanée entoure la fuyante sorcière. Petite tu de vraie pensée, le temps est un loup indolent. Tu as déjà des cheveux blancs. La solitaire se défend, secoue la tête et fout le camp. Les années passent, le sang de lune revient coriace de rancune. C'est à présent leur propre corps qui vient leur susurrer encore de s'arrondir, de laisser place à cette vie qui les dépasse. Mais c'est pas si simple que ça, la tête et le corps, ça se bat, ça se bat, ça se bat. Quand elles renoncent à cette vie qui les engonce, la horde des mégères ulule, les filles comme vous, c'est sous pilule. Mais quand elles gardent tirage au sort cette vie oublieuse trésor, on leur demande d'afficher l'image sereine de l'engrosser. La tous qui se frotte les mains, mégère médecin politicien, madame félicitations, bons organes de reproduction. Et les marchands de colis fichés vomissent leur atroce jouet. Ramener des pays saignés, madame, c'est le moment d'acheter, d'acheter, d'acheter. Tous ils se pressent pour célébrer la liberté sur le bûcher. Après, c'est plus pareil, tu sais. D'ailleurs, comment tu vas l'appeler? Les places en crèche, c'est dès juillet. Et le père, il va travailler. Marché de la natalité, la solitaire à la nausée. Loin des réclames et de la crainte, le vent mugit une complainte que seuls entendent murmurer les fous et les désinsérés. La solitaire la reconnaît, suit le chemin abandonné où l'âne et l'oiseau défourré doucement les regardent passer, comme pour les protéger, comme pour les de bonne intention partent à la chasse à la sorcière, contactent les administrations, la presse locale, les infirmières, mais les ronces barrent le passage à la société du chantage et son petit contre son sein, la solitaire est déjà loin.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, encore pour un petit quart d'heure. Et je vous lis l'extrait du chapitre Folie, handicap et abolition de 1312 raisons d'abolir la police de Gwendola Ricordo, enfin sous la direction de Gwendola Ricordo. C'est un livre de plusieurs plusieurs personnes ont écrit ont participé à ce recueil. Voilà. Alors on n'avait pas, donc ça parle de l'histoire aussi de l'abolitionnisme qui éclaire je voulais partir de quel passage? Oui, déjà, je voulais citer une phrase. Les partisans de l'abolition de la police et de la prison doivent tisser des liens avec les personnes folles, Andy et leur communauté, car nous avons des ennemis communs et des objectifs compatibles. Et à vrai dire, les personnes visées par le capitalisme racial revendiquent souvent de multiples identités brouillant la distinction entre les luttes. Alors je vais un peu plus loin. Le combat actuel contre les fausses solutions peut compter sur la grande clairvoyance des fous et des handis. Nous savons en effet que le système actuel de soins en santé mentale et ses tribunaux ne sauraient remplacer de façon acceptable l'incarcération de masse ou la violence de l'État. Si les abolitionnistes se contentent d'échanger les cellules de prison contre des chambres d'hôpital, rien ne changera. La lutte exige des changements graduels, car la police, les prisons et les services psychiatriques ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Voilà pourquoi les partisans de l'abolition des prisons prônent des réformes non réformistes qui posent les fondements de notre révolution. Mais où et de quelle manière ces changements peuvent-ils se produire en réalité? Il s'agit d'une question ouverte qui suppose de faire preuve d'imagination. Alors la deuxième partie de ce chapitre, guérir au sein de communautés autonomes. Et là, bon, c'est On est aux États-Unis. Gwenola Ricordo est professeure associée en justice criminelle à la California State University, Chico. Elle est l'autrice de « Les détenus et leurs proches » aux éditions Autrement 2008. « Pour elles toutes, femmes contre la prison » Lux 2019 et « Crimes et peines, penser l'abolitionnisme pénal » Grévis 2021. L'abolition par la désinstitutionnalisation. Si réinventer un monde sans prison nous semble impossible, rappelons-nous ce qui s'est produit lors de la désinstitutionnalisation, soit la fermeture d'hôpitaux administrés par l'État et destinés aux fous et aux gens atteints de handicap physique, développementaux ou intellectuel. En 1955, plus de 500 000 personnes étaient incarcérées dans des institutions aux États-Unis. À l'aube du 21e siècle, on en comptait moins de 100 000. Un récit ou un mythe veut que ces ex-détenus aient quitté les hôpitaux d'État et se soient ensuite retrouvés dans la rue ou en prison. L'avènement du néolibéralisme, la politique d'austérité économique de Ronald Reagan et l'essor subséquent du complexe carcéro-industriel ont certes contribué à la désinstitutionnalisation, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La désinstitutionnalisation représentait une victoire que nos mouvements sociaux ont remportée à l'aide d'une variété de tactiques, dont les poursuites judiciaires, la sensibilisation, l'engagement militant, les grèves de la faim, les manifestations et les sit-in, ainsi que la création d'espaces autogérés comme le Center for Independent Living à Berkeley et le Mental Patients Liberation Front à Boston. Si les histoires de nos mouvements sont occultées, elles ne sont pas oubliées pour autant. Des films comme Defiant Lives et Crip Camp, diffusés sur Canopy et Netflix dans les mois qui ont suivi le soulèvement de 2020 pour que les vies des Noirs comptent, montrent comment des militants et militantes pour les droits des Andis ont lutté pour la désinstitutionnalisation et les droits civiques, ce qui a conduit à l'adoption de l'American Disabilities Act de 1990, Disability Justice, a Working Draft de Patty Byrne et This is Disability Justice de Naomi Lamm, raconte la transition de la lutte pour les droits des personnes handies à celle de la justice handie, un mouvement intersectionnel centré sur les personnes de couleur queer, transgenre et non binaire. Of Unsound Mind propose une chronologie de la psychiatrie et de ses liens avec les prisons et la police, ainsi qu'une histoire des avancées radicales en psychiatrie. Les archives de Madness Network News retracent l'histoire de notre travail militant, notamment la lutte contre les hôpitaux psychiatriques et son blog récemment ressuscité, ainsi que sa plateforme de médias sociaux s'intéresse à l'actualité du mouvement à l'image du podcast Madness Radio. Envisager la désinstitutionnalisation comme une histoire de pratique, entre autres abolitionniste, me permet d'affirmer que celle-ci n'est pas seulement un processus historique, mais une logique, écrit Liat Ben Moshe dans Decarcerating Disability. Des gens se sont battus pour cette cause et ont gagné. C'était et cela reste un processus difficile, mais il s'agit aussi d'un exemple édifiant de réussite. Cette histoire mérite d'être connue des abolitionnistes. Stratégie d'organisation et fausse solution. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la désinstitutionnalisation? Quelles méthodes se sont révélées efficaces? Et où avons-nous échoué? La participation des personnes folles handies et de leur communauté aux luttes pour l'abolition de la prison et de la police nous oblige à revoir nos objectifs, car toute, entre guillemets, solution qui libère des gens de prison pour les enfermer ensuite dans des hôpitaux est inacceptable. Comme l'écrit Layat Ben Moshe, de récentes critiques de l'isolement carcéral et des établissements de haute sécurité où des personnes détenues sont placées en isolement dans une cellule de la taille d'un placard 23 heures par jour durant des mois, voire des années, réclament un dépistage des problèmes de santé mentale et exige que celles et ceux qui en souffrent ne soient pas soumis à ce type de confinement. Ces revendications pourraient servir de base à une coalition regroupant les abolitionnistes du système carcéral et les défenseurs des fous et des andis. Mais la libération de prison de certaines populations aboutit souvent à leur réincarcération dans d'autres institutions ou par d'autres moyens, dont le traitement sans consentement et la détention illimitée dans des centres de détention, des hôpitaux psychiatriques ou des services de psychiatrie médico-légale. Fin de citation. De la même manière, les brochures ou les politiques qui proposent des solutions de rechange au 911 doivent faire l'objet de recherches rigoureuses avant d'être diffusées. Si les faits démontrent que l'hospitalisation forcée accroît en réalité la probabilité qu'une personne tente de mettre fin à ses jours, de nombreuses lignes et services SMS de prévention du suicide, notamment la National Suicide Prevention Lifeline, répondent aux préoccupations de sécurité, conformément à une logique carcérale. Autrement dit, si vous parlez trop de votre envie de mourir, la personne à l'autre bout du fil risque de prévenir la police ou les services d'urgence, qui sont souvent accompagnés de la police. Il en va de même pour la plupart des équipes mobiles d'intervention d'urgence que l'on a présentées à titre de solution pour réformer la police durant le soulèvement de 2020 pour que les vies des Noirs comptent. Voilà qui est préoccupant, car la police tue régulièrement des gens dont Miles Hall et Patrick Warren SR, en procédant à de prétendues visites pour vérifier que tout va bien. Les lignes de réconfort animées par des pères qui ont eux-mêmes déjà reçu des diagnostics psychiatriques sont moins susceptibles de faire appel à la police. Le service d'entraide téléphonique de la Wildflower Alliance ne recueille pas de renseignements personnels, ne réalise pas d'évaluation et ne prévient ni les services d'urgence ni la police. De même, la Trans Lifeline, animée par et pour des personnes transgenres et non binaires, n'appelle pas la police sans consentement préalable. Toutefois, les pratiques varient. En cas de doute quant à savoir si une ligne de réconfort collabore avec la police et dans quelles circonstances, mieux vaut demander. Dans notre combat contre les systèmes carcéraux, il convient de rejeter les fausses solutions qui prospèrent grâce à notre manque d'imagination et de capacité à rêver. J'aurais dit plutôt à cause de notre manque, mais bon. Mais quelles sont les vraies solutions ? En s'inspirant de la façon dont les abolitionnistes ont orienté le débat public vers la question de l'abolition de la police et de la prison ces dernières années, les personnes folles handies et leur communauté peuvent déployer des tactiques similaires pour promouvoir leur lutte aux côtés de ces mouvements. Des abolitionnistes se sont toujours mobilisés et livrés à des analyses critiques autour de la folie et du handicap. Parmi les exemples actuels, citons Mental Health First, projet d'intervention d'urgence mis sur pied par l'Anti-Police Terror Project à Oakland et à Sacramento, en Californie, après des années de lutte pour la libération des Noirs. Mais de nombreux défenseurs des fous demeurent peu au fait de l'histoire abolitionniste et vice-versa. Celles et ceux d'entre nous qui militent de façon isolée au nom des fous doivent se demander ce qu'ils peuvent apporter aux luttes plus larges pour l'abolition et ce que celles-ci ont à leur apprendre. Peut-on proposer des formations « Connaissez vos droits » visant à éviter les violences policières et l'hospitalisation forcée ? Quelles initiatives de solidarité avec les personnes détenues, notamment les campagnes de sensibilisation et les programmes d'envoi de livres dans les prisons, peut-on mettre en œuvre à destination des gens incarcérés dans les hôpitaux d'État ? Nous pourrions renforcer les liens entre les personnes hospitalisées et les gens qui se trouvent dehors, entre guillemets, en soutenant également les personnes soumises à un traitement sur ordre d'un tribunal, à la terreur policière, etc. Encourageons les échanges entre les mouvements en soumettant des rapports sur nos activités à des sites d'actualité indépendants comme It's Going Down et en invitant leur rédaction à solliciter activement ces contributions. Les personnes folles, Andy et leur communauté peuvent participer à des campagnes de harcèlement téléphonique contre l'administration pénitentiaire et les militants anticarcéraux, appuyer des initiatives comme le programme Shield de Mind Freedom qui mobilise le public en soutien aux personnes hospitalisées de force. En contexte psychiatrique, un patient ou une patiente qui ne coopère pas avec son plan de traitement est qualifié de réfractaire. Nous devenons réfractaires quand nous refusons de croire au récit du capitalisme racial et que nous commençons à rêver d'un autre monde. Collaborer avec des mouvements pour l'abolition de la prison et de la police nous permet de nous attaquer aux fondements de la logique carcérale et de contribuer à des efforts collectifs visant à abolir les systèmes de violence, d'exploitation et de contrôle partout où ils existent. Voilà, c'était l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
J'aime le grain de sable qui se laisse pas moudre, qu'a toujours envie d'en découdre. Qu'à la voix pour gueuler contre vents et marées, contre maître. J'aime le grain de folie et ses idées nouvelles. Il est temps les enfants de séquestrer le Père Noël pour qu'il donne à tout le monde pareil. J'aime le grain de raisin qui fait perdre la raison. Quand le sang de la terre rime avec la colère et pas avec pochetron. J'aime le grain de sable qui se laisse pas faire, qui ramène toujours, toujours son grain de sel, qui le mêle au café, au poivre et au saté. J'aime le grain poivre et sel au temple de mon père, et le grain de bon sens dans les yeux de ma mère et sur la tête de ma mère. J'aime les grains d'une famille, les vieux et puis les gosses, côte à côte pour la vie, dans les pis, dans la cosse, refusant d'abdiquer contre képi et crosse. Qui pète, qui prend la rue pour une conquête, qu'on a vu, qu'on a bu, mais jamais vermoulu, toujours fier. J'aime les grains qui s'égrènent pour les oiseaux l'été, Qu'importe s'ils sont laids, ils sont grains de bonté. La lumière. J'aime les grains qui s'engrainent et les grains qui s'emballent, qui deviendront jamais de la farine à 10 balles. De la poussière, de la poussière, de la poussière.